marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
L'Europe, Danube et Rhin.
Ensemble, nous débolerons dans le Parlement européen. Ensemble, nous pédalerons sous la tour inachevée, symbolisant les idéaux trahis de transparence et d'ouverture. Ensemble, nous pédalerons dans l'agora pavée de marbre autour du globe offert par la ville polonaise de Wrocław. Ensemble, nous pédalerons sur la moquette Bordeaux dans les couloirs labyrinthiques. Nous pédalerons autour des plantes grimpantes. Nous pédalerons dans le parlementarium en pensant aux beaux yeux bleus de Simone Veil. Nous pédalerons devant les 24 cabines des interprètes. Nous ferons valser les 751 sièges bleu nuit. Nous réveillerons la poussière d'étoiles mortes et les fantômes de l'utopie.
Emmanuel Ruben, notre invité, lu par Irène Jacob. Emmanuel Ruben qui déclare: on en avait notre claque des trains et des avions qui nous parachutent de gare en gare, de tarmac en tarmac. Nous voulions voir l'Europe autrement. Emmanuel Ruben, né en France, et son copain qu'on va nommer Vlad, né en Ukraine, ont donc décidé de remonter le Danube depuis les multiples bras du Delta jusqu'à ses sources, au plus près, en vélo. Emmanuel Ruben, géographe, dessinateur, est aussi un écrivain né. Écrivain européen de langue française, précise-t-il. Au retour, il a rédigé le récit de cette équipée de 48 jours qui pour lui, en fait, avait commencé dans son enfance, quand la chute du mur, en 89, l'avait fait rêver à un continent d'utopie. C'est à Strasbourg que s'achève le parcours, dont le sujet, à dire le vrai, est moins le Danube que l'Europe, la jeune Union européenne, déjà candidate à l'éclatement, comme l'était en 14 le vieil empire austro-hongrois. L'Union européenne, qui ne sait que faire de son axe danubien où étaient situées les vieilles capitales de François-Joseph, Vienne, Budapest. L'Union européenne, qui ne sait non plus que faire des démons de sa mémoire, fascistes et communistes, qui hantent toujours ses angles morts. L'Union européenne a gardé ses capitales de l'axe rhénan, pourtant choisies par défaut et à titre provisoire, Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg. Y claque toujours le drapeau dont Vlad propose qu'on ôte les étoiles au cutter. Que peuvent-elles encore éclairer depuis que l'Union préfère abandonner les réfugiés à leur sort? Parfois, on se prend à penser que le destin de l'Europe semble achevé alors qu'il n'est pas accompli et on la regrette déjà en même temps qu'on la laisse mourir.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Emmanuel Ruben, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Ce récit est publié aux éditions Rivage. Alors, il faut que je salue d'abord en vous le fils de deux fleuves, on va dire que la Saône est un fleuve comme le Rhône, vous êtes un Gaune.
Tout à fait, oui. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Lyon.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas de fidélité à une identité?
C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas dire s'ils sont de la rive gauche ou de la rive nord, de la rive est ou de la rive ouest, parce qu'il faut d'abord nommer le fleuve.
Alors, sur la route du Danube, il faut que je parle de vos distinctions maintenant, a reçu le prix Nicolas Bouvier à Saint-Malo, au Festival Étonnant Voyageurs. Et vous êtes dans le sillage de Nicolas Bouvier, je le jure. Et puis, distinction encore un peu inattendue, votre livre, vous avez profité de plusieurs résidences pour l'écrire. L'une d'entre elles, c'était au bord de la Loire, au bord d'un autre fleuve, à Saint-Florent-le-Vieil.
Oui, bien sûr. Alors, pas vraiment en tant que résident, hein, puisque je suis le directeur.
Mais maintenant, vous n'êtes plus résident, vous êtes le directeur.
Je suis le directeur de la Maison Géographe.
Artistique et littéraire.
Artistique et littéraire, oui.
Oui, il faut tout dire.
Mais j'ai écrit d'autres livres au bord de la Loire, quand j'étais en résidence à la Maison Géographe, puisque j'étais un des premiers résidents à la Maison Géographe en 2014. Et ce livre-ci, je l'ai écrit en grande partie au bord de la Loire. C'est la Loire qui me rappelait le Danube. C'est en regardant couler la Loire que je me suis souvenu des échos du Danube. Ce sont quand même deux fleuves qui se ressemblent.
On dit que la maison de Julien Gracq n'abrite rien. C'est pas vrai du tout. Elle abrite une résidence. Elle abrite préférence. Des rencontres renouvelées au mois de septembre. Et puis peut-être, dans un coin, la correspondance que vous avez entretenue avec Julien Gracq qui vous recommandait de faire comme lui, de passer l'agrégation de géographie.
Quelqu'un qui a fait de la géographie, plus exactement de la morphologie, c'est-à-dire l'étude des formes du terrain, ne regarde pas le paysage comme un voyageur, comme un touriste. Il regarde plutôt, je dis, comme un chirurgien peut regarder une statue. C'est-à-dire qu'il sait comment c'est fait. Il a étudié, il connaît l'ossature géologique du paysage qu'il y a dessous, tout comme le médecin regarde une statue en voyant jouer les muscles, les os, les attaches, il vérifie. Il a un sentiment structurel du paysage. Je dis, c'est une vue plutôt cézannienne du paysage plutôt qu'impressionniste. Alors, c'est un sentiment de solidité, et bien ça donne aussi un sentiment de d'unité, parce que ce paysage est un seul tenant. Tous les éléments s'emboîtent les uns dans les autres. Alors que la plupart des gens, en voyageant en général, ont l'impression d'une espèce de diorama qui se déroule, ils ne savent pas pourquoi. Il y a des collines, puis d'un coup il y a une rivière, puis des montagnes. Ça vient là, très souvent, ils ne se préoccupent pas de l'enchaînement.
La géographie a structuré votre voyage.
Tout à fait, bien sûr. Je voulais écrire un manuel de géographie d'une certaine manière. Ce livre, il est aussi, ce livre, c'est plusieurs choses. Mais il est aussi un atlas de géopolitique et un atlas de géopoétique. Puisqu'en fait, en remontant le fleuve, l'idée, c'était de voir justement, comme Julien Gracq, par exemple, cite un vers de Baudelaire qui est très connu, qui est la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Eh bien, la forme d'un fleuve, elle change tout le temps. Et le fleuve, c'est ce qui bouge en permanence dans le paysage. Le fleuve, vous le voyez bouger et vous voyez ses rives se transformer. Les autres choses bougent, les arbres bougent sous l'action du vent, vous avez les animaux qui bougent aussi, mais le fleuve, lui, il bouge tout le temps, il arrive, il part et il s'en va, on ne le voit pas passer.
Mais d'abord, il faut le deviner dans le delta, c'est là que commence après Odessa. Votre équipé, il arrive chargé d'alluvions, qu'il offre comme un présent, qui le retient, et comme un défi à la mer, qui va le délivrer. C'est un endroit d'ailleurs où le vélo est utile, mais moins utile que le bateau ou la barque, le delta du Danube.
Ce bateau donc va nous conduire...
Ce bateau va nous conduire sur le Grand Danube, comme on appelle, à la 1013, dans un endroit qui s'appelle Krishan. Une île.
Au kilomètre 1013.
Marine 13. D'accord. Après notre arrivée, vers les 9h, viendra le pêcheur avec sa barque à moteur.
Et le voyage va durer combien de temps?
Environ 3 heures, parce qu'on va à Val, vers le delta.
De nos jours, le delta, où vivent environ 25 à 30 000 personnes, et surtout le territoire des Lipovènes, ces pêcheurs à longue barbe de patriarches arrivés au XVIIIe siècle de la Russie qu'ils avaient quittée pour des raisons religieuses. À présent, les Lipovènes sont pêcheurs dans le delta, mais exercent aussi ailleurs les métiers les plus divers dans les fabriques ou les usines de Roumanie. Pourtant, ils restent toujours essentiellement le peuple du fleuve, vivant dans l'eau comme les dauphins ou les autres mammifères marins. Sur les rives, leurs barques noires ressemblent à de grosses bêtes en train de se reposer sur la plage au soleil, à des phoques prêts à plonger et à disparaître dans les eaux au moindre signal. C'est sur l'eau que se trouvent leurs maisons de bois, de boue et de paille, couvertes de roseaux, leurs cimetières avec leurs croix bleu ciel, leurs écoles où les enfants se rendent en canoë. Claudio Magris, Danube, 1986.
Lu par Alexandre Breton, un autre parrain de votre livre sur le Danube, qui vous permet de rencontrer dans le delta, mais plus en amont, les peuples que vous préférez, enfin les peuples à légende, ou les peuples à histoire au pluriel.
Bien sûr, on a rencontré énormément de peuples en remontant le Danube, et à commencer par ce peuple un peu inattendu, qui est le peuple ukrainien, puisque c'était le titre d'un livre, The Unexpected People. Et le peuple ukrainien, qui est un peuple que j'apprends, que je fréquente depuis longtemps maintenant, puisque j'avais commencé une thèse sur Kiev que j'ai dû abandonner, et est un peuple étonnant, puisque à chaque fois, vous êtes sur une... c'est un peuple frontière. Les Ukrainiens sont un peuple frontière. Ukraina, ça veut dire la frontière. Mais c'est un grand peuple frontière qui, alors évidemment, ne s'est pas encore accordé sur qu'est-ce qui va faire l'unité de ce peuple. Et puis il y a d'autres tout petits peuples frontières qu'on a rencontrés. C'est l'Ipoven, qu'on appelle aussi les vieux croyants, qui vivent dans le delta du Danube, mais aussi les Gagaous, ça c'est très étonnant, ce sont les Gagaous parlent une langue turcophone, mais sont chrétiens en fait. On a rencontré aussi des Valaques. Les Valaques, ils parlent une langue qui est proche du roumain, le Valaque, mais ils vivent plutôt du côté serbe, sur la rive serbe du fleuve. Il y a plein de peuples comme ça, et puis surtout on a rencontré d'une certaine manière le dépeupleur, ce que Beckett appelait le dépeupleur, parce qu'on a rencontré surtout le vide par moment, des villages qui sont complètement vidés, avec tout le monde est parti, il n'y a plus assez de murs, il n'y a plus assez d'arbres.
89, avant la chute du mur, il y avait 111 millions d'habitants dans 11 anciens pays communistes de l'Union Européenne, et l'INED a calculé qu'on en est maintenant à 103 millions. Il y a un pays, cependant, où le solde migratoire est positif, c'est la Hongrie, curieusement. La Hongrie, où vous dites que vous arrivez devant franchir le nouveau rideau de fer.
Bien sûr, le nouveau rideau de fer. Le rideau de fer s'est déplacé de très peu, en fait, au cours de l'histoire, depuis 1989. Et c'était déjà un petit peu le propos de mon livre sur la ligne des glaces, qui était paru en 2014, où on se situait là dans les pays baltes, et je montrais que le rideau de fer qui passait à travers la Baltique, finalement aujourd'hui, il passe toujours un petit peu à travers la Baltique avec l'enclave de Kaliningrad. Et il a été très peu repoussé. Eh bien, en Hongrie, en fait, si vous pensez à Sopron, qui est cet endroit, on voit cette image, vous savez, de ce ministre des Affaires autrichien, ce ministre des Affaires hongrois, qui sont venus tenailler le rideau de fer de part et d'autre en 89, avant la chute du mur. Là, on est avant la chute du mur, pendant l'été 89. Eh bien, la ville de Kelebia, où passe aujourd'hui le nouveau rideau de fer, le rideau de fer de Viktor Orban, se situe à 200 kilomètres à vol d'oiseau de Sopron.
On va parler des capitales de l'Union européenne. Vous recommandez, il faut faire, ou il fallait faire, de Budapest une des capitales de l'Union européenne. La CECA n'avait pas de capitale, elle a choisi en 52 Luxembourg comme capitale provisoire, et puis après le traité de Rome, Luxembourg, qui aurait dû devenir capitale définitive, a dit que son identité luxembourgeoise aurait été flétrie s'il y avait trop d'institutions européennes, et Bruxelles a joué un rôle dominant. Si après 89, on avait mis un rôle de capitale entre les mains de Budapest, les choses auraient-elles changé?
Après 89, ça aurait été impossible. Il fallait attendre l'élargissement.
Oui, donc après 2004, bien sûr.
Après 2004, oui, je pense qu'il fallait réfléchir. Après 2004, le centre de gravité de l'Europe s'est déplacé vers l'Est. Et en même temps, la politique européenne s'est déplacée vers la droite, d'une certaine manière, avec une urbanisation progressive de l'Europe qui ne fait, en fait, d'une certaine manière que commencer. Et je pense, cette idée m'est venue parce que je faisais une rencontre dans une librairie à Bruxelles, et je voyais à quel point les Bruxellois et les Belges, en règle générale, sont très europhiles. Mais évidemment, parce qu'en fait, ils ont toutes les... L'Union européenne est venue sauver la Belgique. La Belgique avait le Congo, la Belgique avait des grandes colonies. Mais la Belgique, sans l'Union européenne, ce n'est plus rien. Ça ne serait plus rien du tout. Donc ils ont cette conscience qu'ils doivent tout à l'Union européenne. L'Union européenne est venue les sauver. Donc je pense que si on voulait rendre les Hongrois europhiles, le meilleur moyen serait de faire de Budapest, pourquoi pas, une des capitales de l'Union européenne.
Mais il y a les grandes institutions, et puis aussi les agences. Donc à Budapest, vous avez une agence pour l'innovation, et nous avons noté l'un et l'autre la présence d'un collège européen de police.
Comme par hasard.
C'est pour l'apprentissage des bonnes pratiques, Emmanuel Ruben. Le choix de la musique, je vous ai proposé de l'assumer. Et puis finalement, André Ripouille a dit « Ah non, on va mettre Thierry Maillard, trio, Budapest, Budapest ».
Thank you.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Les capitales d'Europe, avec Emmanuel Ruben qui publie Sur la route du Danube, Budapest, la seule grande métropole danubienne. On va aller peu à peu vers les capitales de l'axe rhénan, mais progressivement. Il y a un point commun d'ailleurs entre toutes les capitales. Vous citez Claudio Madris et vous dites l'Europe, elle se caractérise par la densité de ses cafés. Et maintenant par la densité de ses terrasses. Dans chaque ville, que ce soit Budapest ou Bruxelles, il y a les mêmes serpents de terrasse le soir.
Les cafés, c'est pas Magritte, hein, c'est Steiner. Je n'ai pas cité Magritte dans le livre, sauf à la fin, parce que je me disais que quand même...
Merci de la correction.
Je marchais sur les plates-bandes et je faisais le chemin inverse, donc je ne le cite que dans l'épilogue. Évidemment, il y a des cafés partout, mais alors vous savez, à Belgrade, je crois que c'est Belgrade qui a la plus grande densité de cafés. C'est très, très,
mais
très...
Mais les terrasses, vous savez, les terrasses, bien sûr, où on se tient là le soir. Oui. Alors vous buvez beaucoup d'eau de vie locale dans la première partie de votre voyage, interminablement.
Oui, mais il y a plus de terrasses à l'est maintenant, si vous voyez, dans les capitales. Je crois qu'il y a beaucoup plus de terrasses dans des capitales comme Belgrade ou dans des grandes villes comme Novi Sad que dans nos villes.
Alors Novi Sad, ça c'est une ville qui vous est chère.
Tout à fait, qui
sera
capitale.
Vous y avez vécu.
Oui, j'ai vécu 2 ans. C'est une ville sur le Danube, c'est une ville qui a été bombardée à plusieurs reprises, bombardée par les Hongrois en 1849, bombardée par l'OTAN en 1999, avec des morts, notamment dans un petit quartier tzigane qui s'appelle Shanghai, qui avait le malheur de se trouver situé à côté de la raffinerie de pétrole, sauf que les Américains, vu qu'ils bombardaient très haut, je sais plus combien, de 15 000 pieds de hauteur, les obus tombaient sur ce petit quartier tzigane au lieu de tomber sur la raffinerie de pétrole. Et puis Novi Sad, ça sera on est arrivé quand même à extraire toutes les carcasses de ces ponts qui gisaient dans le Danube, puisque les 4 ponts sur les 8 ponts qu'il y avait en Yougoslavie, 4 étaient situés à Novi Sad, donc la moitié quand même des ponts de Yougoslavie. C'est un endroit où le Danube se resserre, un endroit très stratégique avec la forteresse de Petrovaradin, qu'on appelle aussi le Gibraltar du Danube. C'est une ville magnifique, c'est une ville que je porte encore en moi, et c'est une ville qui sera capitale européenne de la culture en 2021.
Bon, on va aller vers la capitale disputée du Parlement européen, Strasbourg, qui n'est vraiment capitale pour certaines sessions plénières que depuis l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Alors, de ce côté plus civilisé, n'est-ce pas, de l'Europe, il y a des pistes cyclables.
Ah oui, il y en a un petit peu moins, vous savez.
Il y en a moins à l'Est.
Évidemment.
Ah, il faut quand même reconnaître à l'Europe dont vous dites qu'elle est suissifiée, américanisée, objet de muséification, la présence de pistes cyclables.
C'est vrai, je l'ai dit dans un article du 1, je dis les deux grandes réussites de l'Union européenne, c'est l'Eurovélo et le programme Erasmus. Et maintenant, aujourd'hui, Erasme pourrait aller de Bâle à Rotterdam, vous savez qu'il passait son temps à faire des allers-retours entre Bâle et Rotterdam, il pourrait aller de Bâle à Rotterdam à vélo, sur une piste cyclable.
Mais j'ai pas entendu parler d'une piste Roscoff, que vous avez tort de ne pas connaître, et Kiev.
Non, elle n'existe pas.
C'est un projet.
C'est une piste imaginaire.
C'est une piste imaginaire. Alors, vous arrivez ainsi, progressivement, vers le Bercail, vers la France, à proximité de Strasbourg. Et avant Strasbourg, il y a ceci, un grand parc de loisirs.
Bientôt, j'effleurerai l'Europa Park. Élu 5 fois meilleur parc d'attractions du monde. Pas question de m'arrêter. Le billet d'entrée coûte dans les 50 euros. J'ai passé l'âge des bateaux pirates et des trains fantômes. Il y a des jours où je me dis que l'Union européenne est un parc à thème grandeur nature. Ce prospectus ramassé sur la route m'annonce qu'ici sont juxtaposés la Grèce, son Parthénon de carton-pâte à l'échelle 1-1, sa taverne Mykonos et son snack Atlantis. Le Portugal et son Magellan Lounge, l'Italie, son hôtel Colosseo, sa pizzeria romantica, sa commedia dell'arte, la France, sa crêperie Nadine, son restaurant Mille Fleurs et sa réplique fidèle du Moulin Rouge à la Belle Époque inaugurée par Luc Besson. Mais les touristes d'aujourd'hui n'ont plus besoin de se rendre à Europa Park pour explorer l'Europe en miniature. L'Europe s'est miniaturisée elle-même. Aujourd'hui, chaque capitale européenne est un élément du parc à thème. Les compagnies à bas coût relient toutes ces métropoles. 50 euros, c'est le prix d'un aller-retour Paris-Stockholm.
Emmanuel Ruben, lu pour le public de France Culture par Irène Jacob, et ici présent, descendu de sa selle.
Oui, cet Europa Park, ça se situe dans un petit, à côté d'un petit village qui s'appelle Roust, de l'autre côté du Rhin, donc dans la plaine de Bade, en Baden-Württemberg, à quelques kilomètres à peine de Strasbourg. Et le livre se termine à Strasbourg, c'était important, ça. Je voulais absolument que ce livre se termine près du... On a entendu tout à l'heure l'extrait, donc vraiment comme si on entrait, comme si je faisais entrer...
vos vélos furibonds,
vélos, voilà,
dans l'enceinte du Parlement.
Puis avec tous les gens avec, qu'on a rencontrés justement dans cette aventure, les faire rentrer dans l'enceinte du Parlement. Mais voilà, à côté, il y a ce parc un peu grotesque, comme on en a plein en Europe, cette espèce d'Europa Park, et avec à chaque fois un petit domaine par pays, et puis tous les caractères un peu folkloriques de chacun de ces pays. Et voilà, ma peur, c'est que l'Europe, elle se mette à ressembler à ça. Je trouve qu'elle y ressemble déjà un petit peu.
Dites-moi, à propos de peur, vous avez la peur des chiens errants. Mmh. C'est pour ça que vous êtes accompagné par Vlad pendant votre voyage, qui sait toujours faire échapper ses mollets aux chiens errants. Et les chiens errants qui vous poursuivent, vous les comparez au peuple mort, à tous ceux qui ont disparu de l'histoire européenne.
Je les compare aussi à tous ceux qui veulent nous... Enfin, non, je les compare aussi à tous ces peuples qui veulent continuer à mordre, qui sont en train... Enfin, aux peuples mourants, plutôt, à tous ces nationalismes. Cette maladie du nationalisme, qui est une maladie, en fait, de peuples qui savent qu'ils vont mourir.
Alors, imaginons maintenant vos deux vélos, la meute derrière, et vous entrez dans cet endroit pacifié, rayonnant de beauté, dû à Martin Robin et à l'équipe d'Archi Studio. Nous avions fait la visite du Parlement européen il y a pas mal d'années en compagnie de Vincent Le Maire.
Là, nous sommes dans l'ascenseur privé du président du Parlement qui monte dans la coque de l'hémicycle.
Et cet ascenseur a comme particularité d'abord d'avoir une vue assez incroyable quand on monte. Donc ça, tout le bâtiment et tout le paysage se découpe en fonction de différents bris soleil. Et ce qu'il a de particulier aussi dans son verre, c'est que c'est un verre actif. C'est-à-dire lorsque l'ascenseur rentre dans la coque, le verre devient opaque. Et dès qu'on sort, on pourrait dire en plein air ou tout du moins sur la vue, l'ascenseur devient transparent. Et sur le toit, moi j'ai toujours envie, il y a eu de la neige, de prendre des skis et de descendre jusqu'en bas, mais bon.
Ouais. Alors nous sommes sur le toit, vous êtes dans les salons du président.
Nous sommes en haut de la grande façade de verre qui regarde donc du côté de l'Allemagne et nous nous dirigeons vers l'intérieur, vers ce grand salon de réception, ce salon protocolaire du président du Parlement. Et là, je crois que vous aviez envie de nous parler de la rencontre sur ce bâtiment, d'une logique industrielle, d'un bâtiment de grande dimension, oui. Conçu par informatique, et des artisans qui sont capables encore de faire des plafonds stuqués comme ça.
Oui, ça c'est un débat que je trouve très intéressant aujourd'hui. C'est qu'en effet, dans le bâtiment, il y a encore des artisans magnifiques qui savent, qui travaillent d'ailleurs comme il y a quelques siècles, c'est-à-dire le vrai artisanat, c'est-à-dire le staff, est toujours posé avec des filasses, avec un peu de plâtre, etc. Et puis il y a les entreprises extrêmement développées, les industriels, qui ont aujourd'hui, grâce à l'informatique, grâce à une méthode très élaborée, ont la possibilité de travailler comme des artisans.
À Bruxelles, il n'y a pas d'architecture européenne. On a choisi le vert, la neutralité, et le Parlement, on le surnomme le caprice des dieux, tant il est réussi. Celui de Strasbourg est très beau, et alors ces architectes ont tout un discours à disposition. Modernisme et artisanat, l'opposition des signifiés, luxe et volupté. Il y a au moins un bâtiment monumental européen, celui-ci.
Le palais de cristal de l'Union européenne, ça rappelle un peu, vous savez, c'est Dostoïevski qui parle du palais de cristal dans les carnets du sous-sol, puis il parle aussi de l'Europe comme un grand cimetière. J'aimerais bien que ce palais de cristal, on le fasse un petit peu vivre, que ça, et tout ce livre, je l'ai écrit pour ça, pour dire que dans le grand palais de cristal de l'Union européenne, il y a de la vie, heureusement encore. Par endroits, à d'autres endroits, cette vie, on sent qu'elle disparaît justement derrière, notamment derrière les écrans. Alors, heureusement, il y a un petit, le plus bel espoir, je trouve, dans cette architecture qui est intéressante, c'est cette partie inachevée. Il y a une partie de ce bâtiment qui est inachevée et qui, pour nous dire que voilà, l'Union européenne, elle reste ouverte et qu'elle va continuer à s'agrandir.
La dureté de votre jugement tient aussi à l'attente qu'enfant vous aviez d'un continent d'utopie, parce qu'en 89, vous avez commencé à dessiner une...
La Zintari.
Voilà. Et votre voyage en vélo, c'est la recherche façade. Du pays d'enfance.
Bien sûr. La façade de Verre ne regarde pas vers l'Allemagne, moi je conteste. Elle regarde la Zintari, parce que de l'autre côté du Rhin, c'est la Zintari, c'est le pays que j'ai inventé dans mon
enfance. Votre grand-oncle regardait les cartes fictives que vous dessiniez et vous disait « ça peut pas être comme ça, un fleuve, il faut le suivre ». Il peut pas aller comme tu le dis. Il y a des compromis à faire avec le paysage.
Oui, je faisais les fleuves remonter les montagnes. J'avais rallongé le Danube. Donc il cherchait les sources du Danube. C'est un ancien parachutiste. Il avait été en poste à Baden-Baden. Donc il connaissait très bien cette région. Et il m'avait dit surtout, ça c'est une leçon que je n'ai jamais oubliée, tu ne peux pas annexer la terre d'un autre peuple. Donc j'ai découpé cet archipel, ce pays, cette Zintari, j'en ai fait un archipel et je l'ai déporté dans la mer Baltique. Mon troisième roman, La Ligne des Glaces, qui était le premier roman publié chez Rivage, était une tentative de partir, de retrouver cette Zintari archipélagique. Et là, sur la route du Danube, je suis parti vers cette Zintari originelle qui avait été inventée le 9 novembre 1989, le jour de la chute du mur, un moment où je sentais qu'il y avait de l'espoir en Europe.
Donc maintenant vous êtes un jeune homme mécontent que l'Europe ne ressemble pas à votre terre d'enfance.
C'est possible. C'est un peu ça. C'est possible. Nous sommes tous des nostalgiques. Vous savez, l'Européen, c'est le nostalgique de l'Europe. C'est ce que dit Kundera. C'est vrai qu'il y a toujours une forme de nostalgie dans l'Europe.
Merci à vous. Cette émission a été préparée par Franck Olivard, Antoine Oberdoff, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Henri Bérec à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.